Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Dominique Lafond. Bonjour Monsieur Lafond.
Bonjour Monsieur.
Dominique Lafond, vous n'êtes pas un personnage public très connu, mais pourtant, pendant presque 10 ans, vous avez défrayé la chronique en tant que président de Bolloré Africa. Vous avez dû, à ce poste, répondre aux multiples attaques dont le groupe Bolloré était l'objet. On vous a parfois vu dans les tribunaux. Au total, vous aurez passé près de 15 ans dans le groupe Bolloré à diverses fonctions. C'est une fierté.
Oui, c'est une fierté parce que je crois que nous y avons fait des choses concrètes et fortes. Quand je suis arrivé dans le groupe Bolloré à la fin des années 90 ou même au milieu des années 90, le réseau africain du groupe Bolloré était relativement restreint par rapport à ce qu'il est devenu quand je l'ai quitté, donc au milieu des années 2010.
Mais vous avez quitté le groupe Bolloré il y a 3 ans pour fonder votre propre société, un fonds d'investissement que vous avez baptisé Lafond Africa Corporation. Vous êtes définitivement attaché à l'Afrique ?
Pour moi, l'Afrique, ça a été un fil très important dans ma vie et je pense que ça le restera. Mon intérêt profond pour l'Afrique était antérieur au groupe Bolloré. C'est pas le groupe Bolloré qui m'a donné cette passion de l'Afrique. Je l'avais quand j'étais adolescent. Et dès cette époque, quand j'étais adolescent puis étudiant, je saisissais toutes les occasions, évidemment, de m'informer sur l'Afrique, voire d'y aller. J'ai terminé mes études en faisant un stage de 6 mois en Afrique du Sud et en parcourant toute cette région. Voilà, j'avais déjà un intérêt qui était profond. Et quand je me suis retrouvé un peu par hasard au groupe Bolloré, puisque j'avais rejoint un an avant le groupe Rivo, qui ensuite a fait l'objet d'une prise de contrôle par Bolloré, eh bien, je me suis dit que c'était une vraie aubaine, que peut-être que j'étais dans un groupe français qui avait un vrai potentiel pour l'Afrique, et que j'allais véritablement avoir l'occasion d'y développer mon énergie. Et là, on était en 1995.
On y reviendra, Dominique Lafond. Mais si vous deviez développer une image, un souvenir qui vous marque de ce continent, lequel serait-il ou serait-elle ?
J'ai beaucoup de souvenirs forts. Vous savez, ce continent compte 54 pays. J'en connais presque une cinquantaine. Donc je répondrai plus facilement à la question « Quel souvenir fort retenez-vous de tel ou tel ou tel pays ?» Car ce continent, on parle souvent de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est quand même un continent énorme, assez hétérogène, complexe.
Quel est le pays où vous vous sentez le plus à l'aise, le plus facile ?
Le pays où je travaille le plus aujourd'hui, c'est le Sénégal. Je me sens effectivement très à l'aise au Sénégal. Je pense que c'est l'un des pays les plus proches de la France.
Culturellement, politiquement ?
Culturellement, humainement. Il y a au Sénégal et chez les Sénégalais une espèce d'état d'esprit qui est assez proche, de l'état d'esprit à la fois francophone et latin, si je puis me permettre. Il y a une espèce de légèreté, de souplesse, de créativité qui fait que je me suis souvent fait la réflexion qu'au monde, les gens qui étaient peut-être mieux capables de comprendre les Français sont les Sénégalais.
Au cours de cette émission avec Frédéric Maury, nous allons vous interroger sur ce que vous percevez des économies africaines, sur ce que vous faites aujourd'hui sur ce continent, mais nous reviendrons bien sûr sur votre passage au sein du groupe Bolloré. Première question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Alors vous venez de nous dire, Monsieur Lafond, que l'Afrique était un continent hétérogène. Alors vous n'avez peut-être pas aimé ma première question parce qu'elle est assez globalisante, mais l'Afrique depuis 2-3 ans connaît plutôt des difficultés économiques après une longue période de croissance d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Est-ce que vous pensez que c'est quand même le bon moment pour investir sur ce continent? Et puisque vous dites qu'il y a, c'est un continent assez hétérogène, peut-être de manière plus précise, il y a peut-être certains pays où c'est plus intéressant d'investir aujourd'hui?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est le bon moment pour investir en Afrique. Parce que l'Afrique a connu une longue période de croissance, les années 2000. dans lequel elle a cumulé trois atouts majeurs. Un désendettement important, provoqué par le Globe de Paris, qui leur a remis 66 milliards de dettes. Des cours de matières premières qui ont été très élevés. Et je dirais un espèce d'engouement planétaire pour l'Afrique, où grosso modo les gens se disaient « mais c'est le dernier oasis de croissance dans ce monde ultramondialisé ». Ensuite, au début des années 2000, on s'est rendu compte, au début des années 2010, à partir des années 2014-2015, il y a eu un phénomène de reflux, lié d'abord par le tassement des cours de matières premières, lié aussi, je dirais, au fait que les effets de mode s'usent, et qu'on s'est rendu compte quand même que l'Afrique, c'était pas non plus seulement le continent des... je dirais des alternances paisibles et de la transparence absolue, et où enfin il y a eu aussi un certain nombre d'histoires, je dirais, d'investissements ou de découvertes de l'Afrique, d'entreprises qui ne se sont pas toujours très bien passées. Et donc je pense que aujourd'hui il y a plus de maturité dans le regard sur l'Afrique par rapport à il y a 15 ans. Il y a quand même un effet d'expérience qui s'est beaucoup développé sur l'Afrique. Il y a moins de survalorisation des actifs que ça n'était le cas au début des années 2010. Donc je pense
que... Qu'est-ce que vous appelez survalorisation des actifs ?
Au début des années 2010, si vous voulez, les entreprises étrangères qui étaient appelées à investir en Afrique risquaient de surpayer le prix des actifs qu'elles acquéraient. Ça pouvait
être... On a vu ce qui s'est passé avec Areva ?
Voilà. J'ai un exemple encore simple en tête. Je prends l'exemple de l'Angola. Luanda était l'une des villes où le prix du foncier était le plus élevé et où les coûts de location d'une villa au mois ou à l'année étaient exorbitants. On était en décalage complet, si vous voulez, avec la réalité économique.
Avec la réalité du pays.
Avec la réalité économique du pays. Aujourd'hui, la situation en Angola est plus raisonnable. Et donc, une bulle a éclaté en Angola. Il n'empêche que l'Angola continue à avoir un potentiel économique sur le moyen long terme qui est fort. Et donc je dirais, pour répondre à la question de Frédéric, ceux qui investissent aujourd'hui en Angola ont beaucoup plus de chances de le faire dans des conditions économiques plus raisonnables qu'il y a 5 ans.
Et vous généralisez ça à toute l'Afrique ?
Pour justement répondre ensuite à la question de Frédéric Maury, qui consiste à dire dans quelle partie de l'Afrique en particulier. Moi, je pense qu'il y a un réel intérêt pour les investisseurs à s'intéresser à l'Afrique francophone. Pourquoi ? Pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que l'Afrique francophone est plus difficile d'accès pour les investisseurs internationaux. Elle est certes plus proche de la France, mais elle est plus compliquée. Elle est moins intelligible pour les investisseurs internationaux.
Pour quelle raison vous dites ça ? C'est quoi ? C'est la taille des pays ? C'est qu'est-ce qui fait que
regardez les Anglo-Saxons. Ils vont en Afrique de l'Ouest, ils vont investir au Ghana plutôt qu'en Côte d'Ivoire. Regardez les Chinois. Ils ont mis beaucoup de temps à investir en Côte d'Ivoire ou en Afrique francophone en général. Les clés d'accès sont plus compliquées. C'est linguistique et je pense que c'est aussi, c'est peut-être psychologique, mais c'est le droit. Les pays d'Afrique francophone, en fait, ont calé leur droit sur, ils ont harmonisé le droit selon les règles de l'OADA, qui s'est calé sur le droit français. Donc pour un certain nombre de raisons, si vous voulez, il y a des spécificités qui font que c'est moins accessible. Donc il y a eu moins d'investissements en Afrique francophone que dans d'autres pays. Il y a également, pour les mêmes raisons, je dirais, une moindre concurrence, peut-être, dans un certain domaine, dans un certain nombre de secteurs d'activité. Enfin, il y a l'avantage du franc CFA. Le franc CFA vous garantit la stabilité. Moi, j'ai souvent pensé avec une certaine, commisération à tous les investisseurs qui avaient cru bon d'investir au Ghana ou au Nigeria ou dans d'autres pays anglophones à la fin des années 2010. Ils ont donc quand même cruellement s'en repentir, vu, je dirais, les dévaluations fortes qu'ont connues les monnaies locales. Et ça, c'est un problème que vous n'avez pas en Afrique francophone. Donc pour toutes ces raisons, j'aurais tendance à dire, regardez l'Afrique francophone, plus rares sont ceux qui regardent, donc meilleures sont les chances d'y faire des investissements censé sur le long terme.
Vous avez dirigé le groupe Bolloré en Afrique à l'époque où l'Afrique était vraiment portée par une croissance très forte. C'était plus de 5% par an en moyenne. Des fois, certains pays, c'était 7-8%. Et c'était une croissance qui était à peu près partout. Il y avait finalement un mouvement général. Et vous, est-ce que vous avez vraiment vu le continent se transformer à ce moment-là ? Parce que quand on regarde finalement aujourd'hui, alors avec le recul, on voit par exemple un rapport de la CNUSED qui dit que finalement, le continent, il est toujours aussi dépendant des matières premières qu'il y a 15 ans et qu'il n'y a pas eu vraiment de révolution majeure.
Je pense que si on doit regarder un regard, si on doit porter un regard sur les années 2000-2010, je crois qu'on peut raisonnablement dire que l'Afrique n'en a pas profité autant qu'on aurait pu l'espérer. Le sentiment que j'ai, c'est que les pays africains n'ont pas profité des opportunités économiques. Elles n'ont pas optimisé les opportunités économiques qui se sont présentées. Un bon exemple, c'est le développement du secteur secondaire. Le secteur secondaire en Afrique, il représente toujours 10 à 15%. C'est une étape clé pour le développement économique de l'Afrique et aussi pour répondre au chômage des jeunes. Il faut que l'industrie se développe. Il faut que les artisanats et l'industrie se développent, mais de façon beaucoup plus massive qu'elle ne le fait aujourd'hui. Or, en fait, vous vous rendez compte que, je dirais, toutes les rentrées économiques issues du boom des matières premières dans les années 2000 et 2010 ont été insuffisamment recyclées dans le développement du secteur secondaire et aussi insuffisamment recyclées dans l'éducation. Donc je pense que l'Afrique en a insuffisamment tiré parti, oui.
Lorsqu'on a préparé cette émission, Dominique Lafond, vous m'avez dit « j'ai l'impression d'être plus habile que d'autres en Afrique », ce qui n'est pas très gentil peut-être pour vos collègues entrepreneurs français du MEDEF que vous côtoyez au sein de cette organisation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus habile que d'autres ?
Plutôt qu'habile, je parlerai plutôt d'agilité. En fait, pour réussir en Afrique, il faut être très souvent sur le terrain. Il faut aimer l'Afrique, évidemment. Il faut être très souvent sur le terrain, parce que c'est quand vous êtes sur le terrain que vous rencontrez les gens, que vous identifiez les opportunités, que vous les saisissez. C'est aussi en étant sur le terrain que vous percevez les évolutions. C'est là où vous sentez comment évolue un pays, si l'évolution globale est bonne ou moins bonne. Donc je dirais que l'investissement personnel sur le terrain est clé, indispensable, à la fois pour saisir les opportunités et appréhender les risques. Le sentiment que j'ai, et que j'ai toujours eu, quand j'étais patron de Valoré Africa, je rencontrais rarement mes alter ego sur le terrain.
Parce qu'ils n'y étaient pas ?
J'ai le sentiment qu'ils y étaient beaucoup moins que moi. Mais comme j'aime l'Afrique, moi, ça ne me coûtait pas d'aller sur le terrain. Au contraire, je trouvais ça passionnant. C'est là où, je dirais, pour réussir en Afrique, il faut éprouver un intérêt profond pour l'Afrique et aimer y être. Moi, j'ai rencontré, si vous voulez, des gens qui... J'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui, quand ils étaient en Afrique, ils étaient inquiets, ils craignaient de se faire piquer, ils craignaient de mal dormir, ils craignaient de manger quelque chose d'avarié. Donc, quand vous êtes dans un climat d'inquiétude comme ça, c'est pas très propice au développement des affaires ou des relations humaines. Même.
Alors, aujourd'hui, que vous êtes à la tête de votre propre affaire, oui. La Fonds Africa Corporation, dans quel secteur vous développez-vous ? Où est-ce que vous investissez ?
Alors, si je puis me permettre, je voudrais d'abord opérer une légère correction sur la façon dont vous avez présenté ma structure tout à l'heure. Ma structure, elle a deux jambes. Une première jambe, c'est du conseil. J'aide les groupes à investir en Afrique. Ça peut être des groupes français, ça peut être des groupes étrangers, ça peut même être des groupes africains, ça peut être des grands groupes, ça peut être des ETI. Ça, c'est une première activité que j'aime bien parce que ça vous plonge dans l'activité et ça vous connecte puissamment avec ce qui se passe au niveau des entreprises. Ensuite, j'ai une deuxième activité qui est en fait, non pas une activité de fonds d'investissement, une activité d'investissement en direct, projet par projet. Donc, je sélectionne, mon objectif c'est de sélectionner 3-4 projets dans lesquels j'investisse personnellement moi-même, dans lesquels je m'appuie sur un core investor, un investisseur
de base.
Un investisseur qui maîtrise le secteur d'activité. La complémentarité, elle est là. Il y a un investisseur qui maîtrise son secteur d'activité qui veut aller en Afrique et moi je maîtrise l'Afrique.
Et c'est quel secteur justement
Et je m'investis opérationnellement dessus parce que initialement, si vous voulez, je pensais créer un fonds d'investissement. Et je me suis dit, mais bon, d'abord j'étais quand même impressionné par toute l'énergie qu'on passait, si vous voulez, sur le plan réglementaire. Et je me disais, tout ce temps et cette énergie passée sur le plan réglementaire, c'est plutôt d'énergie.
Dites-nous dans quel secteur, sans forcément rentrer dans tous les détails de la structure, mais dites-nous où est-ce que vous investissez aujourd'hui.
En fait, donc aujourd'hui, j'investis dans plusieurs secteurs. Donc un premier secteur qui sont toutes les activités de parking urbain. Donc nous développons cette activité, je développe cela avec le leader mondial dans ce domaine, qui est une société française qui s'appelle Parkeon. Et qui était leader, je dirais, dans la fourniture d'équipements. Cette société a décidé de s'ouvrir en fait aux pays émergents et elle se rend compte que pour s'ouvrir aux pays émergents, elle a intérêt à étoffer son offre de services et non seulement d'offrir des équipements de grande qualité, mais également du service. Et c'est ce que nous faisons donc, et c'est très très important si vous voulez pour les villes africaines parce que le sujet de la congestion urbaine est un sujet prégnant en Afrique. C'est un problème que j'ai vu se développer de façon considérable au cours des 15 dernières années et qui peut remettre en cause des sujets fondamentaux. Trop de congestion urbaine nuise aux infrastructures.
Alors on va parler infrastructure, Dominique Lafond, la semaine dernière, ce micro où vous êtes vous-même, se trouvait Charlotte Aubin-Calédjian, fondatrice et présidente de la société Greenwich, spécialiste des énergies renouvelables, en particulier en Afrique. Écoutez ce qu'elle nous disait.
Le rôle des énergies renouvelables sur le continent africain est de compléter le mix énergétique à moindre coût, avec fiabilité et responsabilité environnementale. Mais en particulier dans les zones décentralisées. Greenwich a décidé en 2014 de se concentrer sur le continent africain parce qu'on voyait une grande possibilité de contribuer à l'électrification propre du continent grâce aux énergies renouvelables qui sont aujourd'hui compétitives et fiables. Et dans le contexte africain, où on a des ressources renouvelables importantes, on va parler de l'éolien, les ressources solaires, mais aussi hydro, permettent de développer un mix énergétique propre, mais aussi d'accélérer, en particulier dans les zones décentralisées, où apporter le réseau électrique des sociétés d'électricité prendrait un temps beaucoup plus important et des investissements beaucoup plus importants.
Frédéric Maury.
Alors on entend une jeune fondatrice d'une société française qui investit dans les énergies renouvelables, mais de manière générale, on a l'impression, en tout cas quand on observe le continent, que malgré l'intérêt dont vous parliez pour le continent, finalement les acteurs français présents sur place sont un peu toujours les mêmes, ceux qu'on voit, les Bolloré dont on parlait tout à l'heure, les Total, c'est-à-dire ceux qu'on voyait finalement il y a 15-20 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des nouveaux acteurs, des PME, des entreprises de taille moyenne qui viennent sur le continent?
Alors je pense que c'est là tout l'enjeu. Pour les entreprises françaises, il y a des très grands groupes qui sont en Afrique depuis longtemps et fondamentalement la situation ne risque pas de beaucoup évoluer pour eux. L'enjeu pour la France et pour les entreprises françaises, c'est toutes les ETI.
ETI ?
Les entreprises de taille intermédiaire, si vous voulez, toutes ces entreprises qui ont réussi dans leur secteur d'activité, qui en fait en général ont une maîtrise technique qui est forte et qui représente un chiffre d'affaires qui va de, je ne sais pas quelle est la définition exacte, mais pour moi, l'ETI type, c'est de 100 à 200 millions de chiffre d'affaires.
Et celles-là, pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas en
Afrique ? Alors, elles ne viennent pas parce que, pour réussir en Afrique, je pense qu'il faut une conjugaison de qualité. Il faut avoir la vision, c'est-à-dire il faut avoir la maîtrise de son environnement, d'un environnement qui est complexe. Il faut avoir l'expérience. Et puis enfin, il faut avoir les connexions. Les connexions, c'est-à-dire le réseau. Et quand je dis le réseau, c'est face à un problème donné, savoir qui peut nous aider, comment on doit faire, quel est le chemin.
À quelle porte taper ?
J'ai eu un exemple récent en Afrique sur l'un des projets sur lequel je m'investissais. Le projet était mal lancé. Il était mal lancé parce que l'investisseur, qui n'avait pas d'expérience africaine, avait confié les clés à une personne, un Africain, qui n'était pas du tout à la hauteur. Bon, forcément, comme je connais bien l'Afrique, ça m'a pris quelques semaines pour le comprendre et surtout pour le remplacer. Et pas pour le remplacer par une personne, mais par une équipe assez complémentaire. Ça change complètement la donne. Donc la réactivité est fondamentale. Si vous prenez un mois ou un mois et demi, si vous voulez, pour comprendre que l'équipe est pas la bonne et remplacée par l'équipe idoine, vous sauvez le projet. Si vous mettez 3 ou 4 mois pour le comprendre, le projet, en général, il est dans le mur.
Alors, on va continuer à en parler dans quelques minutes à 13. Un flash d'actualité, Dominique Lafond, nous vous retrouvons dans la deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Nous recevons aujourd'hui le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique en la personne de Dominique Lafond, qui a créé et dirige une société d'investissement et de conseil destinée à l'Afrique et qui a auparavant travaillé, Dominique Lafond, au sein du groupe Bolloré, dont il a dirigé la filiale africaine. Lors de la première partie de cette émission, Dominique Lafond, vous nous avez dit que présider au groupe, au destiné de ce groupe Bolloré avait été une fierté. Vous avez participé pendant près de deux décennies à la montée en puissance du groupe en Afrique. Pour vous, la méthode Bolloré, c'est quoi ?
Moi, je suis comme je suis, c'est-à-dire je suis incapable de ne pas mettre en œuvre des méthodes que je ne ressente pas profondément et qui ne sont pas les miennes. Et quand Vincent Bolloré m'a fait confiance et m'a donné les rênes de Bolloré Africa, j'ai très vite fait un mémo en expliquant quelle était ma vision stratégique et quelle était l'organisation que je voyais mettre en place. Et il l'a confirmé immédiatement. Et j'ai eu de très belles années, si vous voulez, à la présidence de Bolloré Africa, parce que on était en osmose, Vincent Bolloré et moi. Il me faisait confiance, il me donnait carte blanche. Je lui rendais compte régulièrement. Quand je le sollicitais, il était là. Et l'une des raisons de notre succès, au-delà de, je dirais, de la justesse de nos choix et puis de toute l'énergie qu'on y a mise, et puis au-delà aussi de la conjoncture forte qui nous a aidés, ça a été précisément ce soutien du président actionnaire qui sentait l'Afrique. Et là, si vous voulez, où nos concurrents mettaient 3 mois à comprendre une situation et 6 mois à maîtriser, à accoucher d'une décision, nous, ça allait très vite parce que j'étais sans arrêt sur le terrain et parce que le processus de décision et de confirmation de Vincent Bolloré était extrêmement rapide.
Donc ça veut dire une rapidité dans les choix, c'est ça, dans la décision.
Une grande agilité dans le discernement et dans la décision.
Et ça veut dire aussi dans tout en direct entre vous, Vincent Bolloré, et les équipes africaines, c'est-à-dire aucune latitude pour ces équipes.
Les équipes africaines, en fait, sur le plan stratégique, la stratégie, elle était définie à Paris. Ça, c'est clair. La latitude des équipes africaines, elle portait sur la mise en œuvre, ce qui est déjà considérable. Puis la mise en œuvre était... Tout ça, c'est un travail d'équipe, parce que les équipes africaines elles-mêmes, de par les informations qu'elles remontaient, elles renourrissaient sans arrêt. Vous savez, une stratégie, c'est un process qui est en constante évolution. Vous dites quelque chose à Paris, puis 15 jours après, vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que la réalité est différente, ou qu'il y a des opportunités à saisir, ou que vous avez des phénomènes de niche, et donc vous adaptez votre comportement. L'Afrique demande beaucoup de flexibilité. Beaucoup de flexibilité. Bien évidemment, il faut dégager une vision pour dégager un sens et orienter l'énergie, mais ensuite, il faut être capable de muter, de s'adapter, de changer et de saisir les opportunités.
Est-ce que le succès de Bolloré, c'est pas aussi, vous parliez de l'importance de Vincent Bolloré dans ce dispositif, quand même, malgré tout, est-ce que c'est pas aussi les relations de Vincent Bolloré avec un certain nombre de chefs d'État africains ?
Écoutez, ça, je pense que c'est une explication qui est, je dirais, séduisante, mais qui est nettement moins vraie qu'on le croit. Avant que je devienne le patron de Bolloré Africa, en fait, Vincent Bolloré avait déjà mis beaucoup de distance entre lui et l'Afrique, et c'était d'ailleurs à ce moment-là que Michel Roussin avait rejoint le groupe. Et je me souviens en particulier, si vous voulez, d'un conflit qu'on avait eu au Sénégal, où on pensait qu'un appel d'offres s'était pas déroulé de façon sincère sur le port de Dakar.
Qui a été remporté par les Émiratis de Dakar.
Voilà, et on pensait que, objectivement, il y avait quelque part des intérêts d'ordre privé qui s'étaient insérés dans ce tender et dans cet appel d'offres, et on n'avait pas apprécié. Bref, on était, je dirais, assez en conflit avec le président Ouad et son fils. Dans cette affaire, j'ai dit à Vincent, il faut monter au credo. Il faut protester. Et à l'issue, si vous voulez, je lui disais, Vincent, il faut que vous veniez plus souvent en Afrique. Il me disait, mais vous faites très bien les choses. Je lui disais, oui, mais le groupe porte votre nom.
Vous pensez qu'on a un peu exagéré l'importance de ces relations, ou l'influence qu'il peut avoir ?
Je dis que je pense que oui.
En 2015, dans les colonnes de Jeune Afrique, Michel Roussin et Ange Mancini, vous connaissez bien, qui étaient deux piliers du groupe Bolloré à l'époque, ils revendiquaient ce qu'ils appelaient une méthode commando, c'est-à-dire la capacité du groupe à finalement aller très vite, parfois très fort, et parfois d'ailleurs quand même à la limite de la légalité. Est-ce que vous approuvez ce terme de méthode commando ?
Si la méthode commando, ça veut dire une grande agilité et être capable de bouger très vite et de s'adapter très vite et de prendre très vite les bonnes décisions, oui, j'approuve. Si la méthode commando consiste à dire que, comme vous le suggérez dans votre question,
être à la limite de la légalité,
qu'il faut être à la limite de la légalité, évidemment que j'approuve pas.
Mais c'est souvent un reproche qu'on a fait au groupe Bolloré en Afrique, c'est d'être toujours un tout petit peu dans cette zone grise, qui est quand même assez, d'ailleurs assez large parfois en Afrique, où finalement c'est légal, où ça l'est pas vraiment, on sait pas trop, et finalement on avait souvent l'impression que le groupe Bolloré était dans cet espace.
Écoutez, pour le souvent, je pense que votre jugement est sévère. En tout état de cause, sachez que on avait quand même un grand souci de bâtir notre développement sur des piliers solides. Et des piliers solides, ça veut dire des piliers qui sont conformes à la fois aux règles, qui puissent résister à un examen attentif de la part des critiques qui ne manquaient pas, mais qui puissent aussi correspondre à l'intérêt profond du pays. Dans les partenariats publics-privés, si quelque part vous ne conjuguez pas l'intérêt de l'entreprise privée et l'intérêt du pays, un jour vous serez menacé. Où vous risquez d'être menacé. Or, ce sont des opérations lourdes, y compris pour l'entreprise privée qui va investir. Nous, on investissait dans des ports, ça représentait quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, si vous voulez, fondamentalement, je pense que toutes ces opérations de PPP,
de partenariat
public-privé, doivent s'inscrire dans un jugement de fond, d'alignement des intérêts du pays avec ceux de la société, sinon il risque d'y avoir un jour remise en cause.
Mais ce qu'on vous a reproché en filigrane, justement, c'est dans quel sens est-ce qu'on s'aligne ? Est-ce que c'est les intérêts du pays qui s'alignent sur les intérêts de l'entrepreneur, en l'occurrence Bolloré, ou vice-versa, Bolloré qui s'aligne sur les intérêts du pays ? Souvent, on a eu tendance à penser que les intérêts du pays s'alignaient sur ceux de Bolloré.
Écoutez, moi, j'ai quitté mes fonctions en 2014, donc je ne suis plus forcément, je dirais, bien qualifié pour parler de ce sujet. Mais
quand même, vous avez passé 10 ans.
Ouais, mais j'estime que ce que l'on a bâti pendant 10 ans, franchement, pour moi, fait plutôt référence.
Mais dans ce cas-là,
et d'ailleurs, si ça n'était pas le cas, vous verriez des remises en cause.
Alors c'est vrai qu'il y a peu de remises en cause. Je ne dis pas
que tout est parfait. Qui peut estimer aujourd'hui Mais j'estime que ce que l'on a construit pendant 10 ans, par rapport à ce que je vois par ailleurs, j'estime que c'est plutôt une référence.
Mais vous êtes d'accord quand même que surtout ce qu'a fait Bolloré à cette époque-là, à l'époque où vous dirigiez et où le groupe s'est beaucoup développé, aujourd'hui il se développe moins, mais à l'époque où il s'est beaucoup développé, il y a toujours eu une espèce de halo, de suspicion.
Attendez,
quand on a annoncé sur Twitter votre venue, un tweetonaute, donc quelqu'un sur Twitter, vous savez quelle était sa question ? C'était de savoir si dans le budget du groupe Bolloré, il y avait une ligne pour la corruption. Donc, voyez cette espèce de suspicion qui entoure le groupe Bolloré, c'est une réalité.
Oui. Moi, je pense que la façon de lutter contre ça, parce que vous savez ce que c'est que l'envie et le poids du mensonge aussi en Afrique. Moi, ce qui m'a toujours frappé, si vous voulez, c'est les sociétés africaines, elles ont en général une presse assez libre. Donc l'un des critères de la démocratie y est, c'est-à-dire que régulièrement les gouvernements en place se font critiquer dans les journaux de façon très très agressive. Mais quand vous avez un peu l'expérience des choses, vous vous rendez compte que malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui ont un comportement parfaitement contestable.
Alors, je n'ai pas pour défendre mes confrères, mais la question est portée sur le savoir, et donc je vais vous poser la question plus clairement. Est-ce qu'à l'époque où vous dirigez Bolloré, il y avait des actes de corruption ? Est-ce qu'il y a eu
des mallettes,
etc.
Attendez.
Et après, si vous voulez, on fera le procès de la presse, mais commençons par celui de Bolloré.
Non, alors, soyons clairs. Il n'y avait pas d'actes de corruption. Jamais, je dis bien jamais, aucun appel d'offres auquel j'ai participé n'a été fondé sur une opération de corruption. J'irai même plus loin. Nous avons lancé une démarche éthique qui a été lourde. Vous savez, quand vous avez un groupe de 25 000 personnes, vous devez prendre des mesures, parce que ces gens-là travaillent dans un environnement compliqué. Donc on a lancé une démarche de clarification, de formation. On a dépensé des milliers d'heures. On leur a dit, voilà quels sont les objectifs du groupe. Si vous en écartez, ce sera votre responsabilité. N'imaginez pas que vous serez défendu, ce sera votre responsabilité. Et on a formé, et je dirais que, in fine, là où un certain nombre des concurrents de Bolloré à l'époque ont été mis en cause sur des affaires concrètes, claires, à ma connaissance, ça n'a pas été le cas du groupe Bolloré.
Alors, je vais quand même, en effet, à ma connaissance non plus, mais je vais quand même citer une ou deux affaires qui ont vraiment défrayé la chronique, sur lesquelles je voudrais que vous réagissiez, parce que vous dirigez le groupe Bolloré à l'époque. La première, c'est le port de Conakry. Le fait d'avoir évacué Manu Militari, un autre groupe français qui s'appelle Necotrans, l'armée est intervenue, a évacué ces gens-là, et le lendemain ou quelques heures après, Bolloré prenait sa place. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez cet épisode et la manière dont ça s'est passé?
Alors, pour bien comprendre cet épisode, il faut comprendre comment l'appel d'offres a été fait. Pour la bonne compréhension de vos auditeurs, l'appel d'offres du port de Conakry s'était passé dans de mauvaises conditions.
C'est-à-dire
que les informations qui nous remontaient montraient qu'il n'y avait pas une compétition, les conditions d'une compétition équitable n'étaient pas remplies. J'avais d'ailleurs pris rendez-vous avec le président de la République à l'époque pour lui dire, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que le port, c'est un enjeu fondamental pour votre pays et que la façon dont l'appel d'offres s'est fait ne garantisse pas que cet actif fondamental sera bien traité à l'avenir. Il s'avère qu'entre-temps, le président avec qui j'avais rendez-vous est mort et qu'il y a eu un coup d'État. Et je me suis donc retrouvé, si vous voulez, début janvier, parce que le protocole avait maintenu le rendez-vous, et je me suis donc retrouvé au début janvier avec une audience avec le capitaine Camara. Cette audience, je dois dire, m'a servi de leçon, et j'ai compris l'intérêt d'être sur le terrain, et j'ai compris tout de suite que la Guinée-Conakry s'engageait dans une voie qui était désastreuse, et que le problème n'était plus une tender, mais c'était l'orientation générale du pays.
Comment s'est passé cet entretien? Racontez-nous un peu.
L'entretien, si vous voulez, c'est... D'abord, j'ai attendu 6 ou 7 heures. Ensuite, je suis rentré dans une salle où il n'y avait que des militaires. J'ai appris ensuite qu'en fait, bon nombre de ces militaires étaient en fait des ministres du nouveau gouvernement. Et puis l'entretien ne s'est pas très bien passé, pour être clair avec vous, parce que à un moment donné, le capitaine Camara a explosé de colère. Bon, on a laissé passer l'orage.
Mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis en colère?
C'était irrationnel.
Donc vous avez laissé passer l'orage?
J'ai laissé passer l'orage, et puis j'ai repris mon avion en comprenant que le pays allait être géré d'une façon tout à fait irrationnelle. Et la suite l'a montré, puisque tout ceci s'est terminé dans le massacre du stade en septembre de l'année suivante, c'est-à-dire, à ma connaissance, 9 mois plus tard.
Et donc,
ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est en Afrique, je reviens sur le. Parce que vous faites allusion, donc, je dirais, à la perte de la concession par Necotrans. En Afrique, si vous gagnez mal, et que, en plus, vous ne tenez pas vos engagements d'investissement, c'est double faute.
Ouais. Mais ce que vous dites, c'est que
l'État
justifiez le fait qu'ils aient résilié la concession de Necotrans, j'ai bien entendu. Ouais. Par contre, je pense que ma question, c'était la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire le fait que finalement, d'abord, le fait que ce soit une éviction avec des armes, et qu'ensuite, derrière, quelques heures après, le groupe Bolloré vienne prendre la place d'un autre groupe français. Est-ce que vous trouvez que ce sont des manières de faire des affaires?
Pour être tout à fait clair avec vous, je comprends votre question.
Mais votre réponse n'est pas très claire.
Ça n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais procédé différemment.
Donc, qui a pris la décision?
Mais ça, c'est pas le groupe Bolloré qui donnait des instructions à l'armée.
Frédéric Maury.
Juste pour terminer sur ce dossier, mais le groupe Necotrans aujourd'hui, dont on parle à l'instant, il a été placé en liquidation judiciaire et complètement démantelé, etc. Donc c'était votre principal concurrent, même s'il était beaucoup plus petit.
C'était pas notre principal concurrent du tout. C'était un relativement petit concurrent. Nos principaux concurrents, c'était le groupe APMT. C'était les grands logisticiens comme DHL ou Panalpina dans le domaine pétrolier.
Donc c'était un petit concurrent. C'était un concurrent de taille moyenne. Est-ce que vous avez été surpris par leur effondrement? Le groupe s'est complètement effondré.
Non, pas du tout. L'autre jour, quelqu'un me rapportait que je lui avais dit il y a 5 ans, vous verrez, dans 5 ans, ils s'effondreront. Ça ne m'a pas surpris parce que, en Afrique, pour réussir, j'insiste, il faut une vision, il faut des process, il faut et quand je dis des process, c'est on en parlait tout à l'heure, c'est y compris des process éthiques. Il faut éviter de se laisser gangrener.
Alors, tout à l'heure,
plus l'environnement est difficile, oui. Plus on a intérêt à être rigoureux et processé.
Alors, vous êtes ici au micro d'une radio française de service public. En 2010, vous avez fait condamner une autre radio de service public, France Inter, et un de ses journalistes pour diffamation. Parce que dans un reportage diffusé sur les antennes de cette radio, France Inter, les pratiques de Bolloré au Cameroun étaient vivement mises en cause. Alors, on ne va pas revenir sur cette affaire, mais quand même...
On peut.
On ne peut pas dire que le groupe Bolloré fasse dans la dentelle.
Attendez,
allez-y.
Le journaliste a fait une semaine de travail au Cameroun. Et il n'est jamais venu rencontrer, de mémoire, un représentant du groupe Bolloré. J'ai appris moi-même, en rentrant du Kenya le vendredi matin, qu'il y avait cette affaire. Et j'ai eu droit à une interview par téléphone. Le vendredi soir, donc, j'ai une heure d'interview par téléphone. J'écoute l'émission dimanche matin. C'était une émission entièrement à charge, qui s'appuyait sur des informations qui étaient mensongères et non vérifiées, et qui faisait complètement l'impasse, pour des raisons techniques, entre guillemets, sur l'interview que j'avais donnée pendant une heure. Ils ont refusé de corriger derrière ou de nous donner un droit de réponse. On s'est défendu, évidemment qu'on s'est défendu. On fait confiance en la justice française. Et je pense que s'ils ont été condamnés, après 4 jours d'audience auxquels j'ai participé, c'est qu'il y avait matière. Tous les gens nous disaient, mais vous verrez, ils ne seront jamais condamnés. Vous rêvez. Mais ils ont été condamnés parce qu'il y avait motif. Vous devez vous défendre contre la diffamation. Vous devez vous défendre. Tout le monde doit, en fait, respecter des règles, les journalistes y compris.
D'ailleurs, c'est vrai que le groupe Bolloré a fait plusieurs procédures contre les médias. C'est pas la seule, hein, il y en a eu d'autres.
Mais moi, je parle de celle-ci que je connaissais bien.
Mais il y en a eu d'autres.
Parce que j'étais bien placé pour savoir que c'était mensonger et qu'il fallait se défendre.
Il n'y a aucun réflexe corporatiste dans ma question, mais simplement, j'entends ce que vous dites, hein, sur la diffamation. C'est normal, en effet, de se défendre quand on est diffamé. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que, de manière générale, le groupe Bolloré, en Afrique, a souvent manqué de transparence et que, du coup, finalement, quelque part, voilà, si c'est fait attaquer si souvent, c'est aussi parce que, justement,
je vous parle de ce que je connais. Une fois de plus, mes responsabilités se sont exercées jusqu'en 2014. À l'époque, moi, j'étais partisan de communiquer et d'expliquer ce que nous faisions, parce que j'estimais que, dès lors que nous expliquions ce que nous faisions, c'était tout à notre avantage, et qu'on avait intérêt, non seulement, à dissiper, les doutes suscités par les gens qui ne communiquent pas, mais en plus, nous travaillions dans un environnement difficile, que nous construisions était, à mon avis, structurant et porteur pour l'avenir, y compris pour le continent africain, qu'il fallait le faire savoir et le montrer, le démontrer. Et j'ai pas eu le sentiment que, pendant la période où j'ai exercé mes responsabilités, il y a eu beaucoup de sujets. On communiquait abondamment et l'information circulait. Mais nous répondions à tous les sujets.
Alors, on vous reproche également, au groupe Bolloré, d'avoir construit une position très monopolistique en Afrique, de concentrer la plupart des ports et que vous pratiquiez des tarifs qui étaient trop élevés, qui nuisaient au développement. Vous répondez quoi ?
Alors, moi, ce que je réponds, c'est que ce qui s'est passé dans le domaine portuaire au cours des années 2000-2010, et l'un des domaines dans lequel l'Afrique a connu de vrais progrès. Moi, quand j'ai découvert, en fait, professionnellement l'Afrique au milieu des années 90, il fallait voir ce que c'était que les ports africains. Il y avait une gestion qui était souvent insuffisante, il y avait un déficit de moyens, et puis il y avait un déficit de capacité physique. Le domaine portuaire.
C'est-à-dire qu'il fallait X semaines.
Mais les quais étaient en mauvais état, les quais n'étaient pas assez longs, il y avait des ports qui étaient insuffisamment dragués, les conditions physiques n'étaient pas bonnes, et il y avait que des bateaux de petite taille qui pouvaient aller en Afrique.
Donc il y avait énormément d'investissements qui ont été faits.
C'est la Banque mondiale qui a lancé les opérations de concession. C'est pas le groupe Bolloré, c'est la Banque mondiale qui, au début des années 2000, a lancé les opérations de concession. Et à ce moment-là, moi,
j'avais conseillé au gouvernement africain de le faire.
Bien sûr. Et nous, le groupe Bolloré faisait de la manutention. Donc, il était menacé par ce mouvement, puisque tous les manutentionnaires, en fait, allaient se retrouver, en fait, évincés au profit d'opérateurs de concession, évincés des ports. Donc, le groupe Bolloré était menacé de plein fouet par cette, euh, par, par cette vague de concessions qui s'annonçait. D'autant plus qu'il y avait de grands opérateurs internationaux qui déjà géraient des concessions portuaires dans le monde entier et qui n'attendaient que ça pour se développer en Afrique.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements, sans parler forcément du câble doré, mais vous dites qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans le portuaire.
Les ports se sont énormément améliorés en Afrique. Ils se sont améliorés en capacité. Aujourd'hui, les ports africains reçoivent des bateaux qui sont beaucoup plus importants que ceux des années 90, et ils les reçoivent et ils traitent les volumes de façon beaucoup plus rapide.
Mais
donc,
souvent,
je dirais que les opérations d'investissement porteur ont permis de désenclaver l'Afrique dans ce domaine. Il y a d'autres goulots d'étranglement qui existent un peu partout.
Et les tarifs, parce que souvent, c'est quand même quelque chose qu'on entend régulièrement, on dit la logistique s'est améliorée, mais elle reste encore très chère.
Oui, c'est vrai qu'elle reste chère, parce qu'elle est compliquée. C'est vrai que la logistique du dernier kilomètre est très chère en Afrique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut que les tarifs baisse. Et comment ça va évoluer? Je vais vous le dire, comment ça va évoluer. En fait, on va de plus en plus avoir des nouveaux ports qui vont apparaître dans les ports africains. Donc, après une période où, très souvent, du fait de la taille encore relativement modeste des économies africaines, vous aviez un opérateur qui pouvait être unique, vous allez maintenant voir des ports concurrents se développer et les opérateurs devenir concurrents les uns des autres et donc les tarifs baisser.
Alors le dernier kilomètre, c'est souvent le chemin de fer. On reste dans le ferroviaire. La SNCF dit que l'Afrique fait maintenant partie des zones géographiques où elle veut se développer. Écoutez ce qu'en disait récemment Stéphane Volant, le secrétaire général des chemins de fer français de la SNCF, au micro d'Olivier Roger.
Très clairement, l'Afrique subsaharienne est un axe de développement pour le groupe SNCF dans son entier. La SNCF est de retour sur le continent africain. Elle l'avait un peu abandonné ou délaissé depuis quelques décennies et nous avons l'envie de revenir. Donc oui, la SNCF fait de son développement en Afrique un axe de développement prioritaire et oui, dans ce cadre-là, l'Afrique subsaharienne notamment est l'axe prioritaire parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier et que je crois qu'on peut sereinement et sérieusement travailler avec nos partenaires africains comme on le fait dans d'autres pays du globe. Et les échanges que nous avons avec nos partenaires sont d'excellents niveaux. Nous avons des clients exigeants, nous avons des ingénieurs qui savent de quoi ils parlent, nous avons des financeurs à qui nous pouvons faire confiance et la parole de l'État est respectée aujourd'hui. Donc c'est sans risque, sans crainte de l'avenir que nous investissons dans ces pays.
C'était donc Stéphane Volant, le secrétaire général de la SNCF. C'est pas une vision un peu idyllique de l'Afrique qu'a ce haut fonctionnaire ?
Je vais vous dire ma réaction là-dessus. Ça fait des années et des années et des années que je me demandais qu'est-ce que la SNCF attendait pour justement développer son expertise en Afrique. Il y a le sujet ferroviaire est un vrai sujet sur l'Afrique. La SNCF a un trésor dans son expertise technique et la proximité entre la France et l'Afrique faisait que, très logiquement, ça aurait dû être un volet de développement fort pour la SNCF qui aurait pu développer une espèce de SNCF internationale ou Afrique. Un peu ce que, toute proportion gardée, font de grands opérateurs marocains portuaires dans le domaine des ports. Voilà, maintenant, quand je l'entends parler, je me dis la détermination est là maintenant. Et je m'en félicite pour la SNCF. Le plus tôt est le mieux.
Une dernière question. Vous avez publié récemment un rapport avec l'Institut Montaigne sur le renouvellement des relations entre la France et l'Afrique. Et vous dites notamment que la France doit penser sa relation avec l'Afrique dans le cadre de l'Europe. Et pas uniquement pays-continent. Mais l'Europe aujourd'hui, pour elle, l'Afrique, c'est avant tout un problème migratoire et un problème sécuritaire. Est-ce que vous pensez que le président français actuel, Emmanuel Macron, peut faire quelque chose pour changer ça, et qu'est-ce que vous lui conseillerez ?
Moi, je suis optimiste sur la capacité du président Macron à faire bouger les choses sur l'Afrique, à faire bouger les lignes sur l'Afrique. Parce qu'il pose un regard neuf sur l'Afrique, pas seulement sur l'Afrique, mais en particulier sur l'Afrique. Vous sentez que son regard est neuf. Vous sentez qu'il a la crédibilité d'un homme jeune et nouveau. Et l'avenir de l'Afrique aujourd'hui, on le sent bien, il va se jouer sur les nouvelles générations. Le restart, il doit aussi se gérer avec ces nouvelles générations qui sont beaucoup plus connectées que les précédentes avec le reste du monde, qui sont beaucoup plus exigeantes sur l'avenir de l'Afrique et qui ont véritablement envie de créer de la valeur. Et je pense que donc la conjugaison de cette vision, de cette détermination et d'appartenance à la nouvelle génération est susceptible de faire évoluer l'Afrique. Il faut regarder l'Afrique sur l'avenir, arrêter de la regarder sur le passé où on est englué dans toute une série de tabous, de non-dits et de problèmes historico-politiques. Et aussi, vous avez raison, il faut regarder l'Afrique de façon positive. Vous parlez de l'immigration. L'Europe voit trop souvent l'Afrique de façon uniquement négative, mais je dirais, au-delà de ces sujets purement négatifs, il faut arrêter de considérer l'Afrique uniquement comme une économie de rente. On parlait tout à l'heure des cours de matières premières. Il faut voir l'Afrique comme un continent où, je dirais, toute cette énergie doit être captée pour... On parlait tout à l'heure de secteurs secondaires, pour créer des biens et des marchandises, pour créer des nouveaux produits. Le restart, c'est-à-dire le redémarrage, est fondé sur un changement de regard. Arrêtez de voir l'Afrique uniquement comme le continent des problèmes, arrêtez de voir l'Afrique uniquement comme une économie de rente. Et regardez les nouvelles générations.
Dominique Lafont, c'est sur ce message d'espoir et de confiance que se termine cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site internet de RFI ou en retrouver les meilleurs extraits dans les colonnes de Jeune Afrique. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde et en image cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.